Vous écoutez France Musique.
Oh, un coquillage. Oh, un bateau. Et puis encore un là. Deux, trois, quatre. Oh, c'est magnifique. Oh, encore un.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Musique dans cette séquence de plage. Une heure ensemble pour toutes les musiques que vous aimez, les pieds en éventail, les oreilles ouvertes sur le monde et sur tous les beaux sons qu'il nous a donnés. L'orchestre symphonique de l'URSS, dirigé par Evgeny Svetlanov, dans cet extrait d'Antar de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Un vrai petit bijou, enfin je dis petit, 35 minutes de musique tout de même, entre la symphonie, elle porte numéro 2 dans le catalogue de Rimsky-Korsakov, et le poème symphonique. Antar nous raconte l'histoire de ce prince tellement déçu des hommes qu'il part dans un désert. Là, il croise une gazelle, il la sauve d'un monstre. Cette gazelle se trouve être une princesse, Gulnazar, qui lui offre 3 dons. Les trop dons de connaître les grandes délices et voluptés humaines, la vengeance, le pouvoir et l'amour. Chose intéressante, dans cet Antar, on doit en quelque sorte cette œuvre à un certain Salvador Daniel, qui est un Français et qui partit en Algérie recueillir des chansons. Et il fit un recueil de tout cela, un recueil que Borodine possédait et dont Rimsky s'inspira pour certaines des mélodies d'Antar. Bref, on est là aux sources de l'orientalisme européen et russe, qui est plutôt, on s'en rend bien compte, un orientalisme algérien. On va poursuivre avec du plus léger, pour ne pas dire du plus domestique. Oh, les femmes, prodigues en volupté, depuis longtemps je serais moine si elles n'existaient pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Brahms. Willst du nicht dein Herz erweichen, willst du eine überfromme, rasten ohne traute Wonne, oder willst du das sich kosten?
Hält es Mut und Beben,
5 Liebeslieder, des petits chants d'amour, sous-titré aussi Valse, c'est l'opus 52 de Johannes Brahms, qui se trouve opposé ici dans ces petits chants. Très souvent, on vient de l'entendre là, deux voix d'hommes contre deux voix de femmes, ces quatuors vocaux. Brahms en écrivit énormément. Il y a 6 numéros d'opus chez lui, c'est dire tout de même. Je vous ai raconté tout à l'heure, c'était de la musique domestique. Ben oui, c'est l'été, parce qu'il se trouve qu'il y avait un gros besoin à l'époque, une grosse production de musique qu'on faisait en famille ou avec des amis se réunissant autour du piano en Allemagne. Comme tout le monde savait chanter à peu près bien, et pourquoi pas cette musique de Brahms, eh bien on leur avait écrit toutes ces musiques-là, et entre autres Brahms avec ses textes, toujours tout à fait charmants et délicieux, je vous en disais quelques petits vers tout à l'heure. La suite, eh bien on la connaît sous une autre forme, celle de sa transcription pour deux clavecins. C'est un concerto de Jean-Sébastien Bach, ici version originale. On reconnaîtra un hautbois, un violon, et le thème, on le reconnaîtra bien. Thank you. En soliste, c'était Antoine Turunchico au bois, Pablo Valetti au violon, autour de le café de Zimmermann, réuni pour cet allegro, le premier mouvement du concerto pour au bois et violon en ut mineur de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous connaissez Guilcham ? Ah ben j'imagine que oui, si vous êtes auditeur de France Musique, vous avez déjà entendu peut-être son nom, c'est l'un des grands solistes violon d'aujourd'hui, bien sûr, Guilcham, mais quand je dis si est-ce que vous le connaissez personnellement, ce ne serait pas impossible parce qu'à la fin de ses concerts, il est toujours très ouvert, il accueille assez volontiers les auditeurs qui sont venus le voir. C'est un garçon gentil, mais vraiment gentil, affable, souriant. Il a l'air très simple, ce qui est compliqué dans un milieu musical. On le sait, quand on fait une carrière internationale comme la sienne, qui rend les personnalités un peu rudes, parfois, c'est pas du tout son cas. Alors, on se demande pourquoi, il y a 15 ans, il a enregistré une danse du diable, un disque entier consacré à des musiques diaboliques. Et ben, c'est pour une raison, c'est que le violon en a inspiré beaucoup de telles musiques depuis Tartini et ses trilles du diable, bien sûr, en passant par la personnalité de Paganini. On va entendre ici Guilcham nous interpréter cette bizarre ronde des lutins, scherzo fantastique, est-il dit, Antonio Bazzini en est l'auteur, et le diable l'inspirateur, n'en doutons pas un instant. Thank you. Pas de violoniste, on se demande comment il fait quand même, Guilcham, pour arriver à interpréter ainsi de manière aussi ébouriffante et aussi délicate à la fois. C'est ça qui est très étonnant. Cette ronde des lutins d'Antonio Bazzini, Guilcham donc au violon, Jonathan Feldman était au piano. Baileiro, c'est l'un des plus célèbres des chants d'Auvergne de Joseph Canteloube, chopé au vol, dans Haute-Auvergne bien sûr, plus précisément dans le Cantal, nous est-il dit. Pourquoi est-ce qu'on aime cette œuvre? Tout simplement parce qu'elle a une orchestration magnifique, lumineuse, transparente, vibrante à la fois, on a l'impression d'y être, ou ça, je ne sais pas, mais on y est. Inspiration champêtre aussi, vous allez l'entendre ici, en particulier dans l'interprétation de l'English Chamber Orchestra, celle qui chante, c'est Kirite Kanawa. Vous et moi, quand on va en Auvergne, en général, on rapporte une entorse, un mauvais coup de soleil. Ben, Joseph Canteloup, lui, nous rapportait ses chants d'Auvergne. C'est un peu mieux. Bailero, ici chanté par Kirite Kanawa, avec l'English Chamber Orchestra, mené par Jeffrey Tate, et des oiseaux et des chants partout. Musique merveilleuse, encore à suivre, quoique sur un mode très différent et passablement plus ténébreux. C'est l'un des plus beaux nocturnes de Frédéric Chopin, le premier de son opus 27, avec des vagues dessous sur lesquelles se détache une sorte de chant complet. Complètement angoissé, ah oui, surtout quand Nelson Frère est à la manœuvre.
Thank you.
Le 7e nocturne de Frédéric Chopin, le premier de son opus 27, était joué par Nelson Frère. Qui est le précieux dégoûté donc ? Ça, Eric Satie nous ne dit pas. Il a écrit trois valses pour son précieux dégoûté à lui. Vous allez me dire, dans le milieu musical et dans le milieu des mélomanes, il y a tellement de snobs qu'après tout, on pourrait se dire chacun a le sien. Moi, j'ai quelques deux ou trois noms pour des précieux dégoûtés possibles. Mais enfin, encore une fois, vous en trouverez dans votre entourage, peut-être nous-mêmes. Sait-on si ce n'est pas son propre portrait que faisait Eric Satie avec ces trois valses-là, successivement sa taille, son binocle, ses jambes, c'est pas beau à voir. En effet, ce serait un portrait d'Eric Satie que ça ne m'étonnerait pas. Les trois valses distinguées du précieux dégoûté étaient jouées ici à l'accordéon, oui, et pas au piano. Le piano, c'est pour la version originale et c'est Teodoro Anzelotti qui a porté tout ça à l'accordéon avec infiniment de grâce. Leonardo Garcia Larcón, voici un nom triple qu'on a appris à connaître bien ces dernières années. Il a fait l'effet quasiment d'une bombe dans le milieu baroque avec son, je devrais dire, ses différents ensembles tournant autour de la Cappella Mediterranea, en particulier un Falvetti, sorti il y a peu, un déluge universel qui a fait beaucoup parler et on comprend pourquoi la musique était incroyable et une vraie découverte. Mais quelques années auparavant, Leonardo Garcia Larcón avait donné un volume autour de Barbara Strozzi qui était absolument fabuleux. Le volume et la musique de cette compositrice, bien sûr, active à Venise au milieu du XVIIe siècle. On va entendre ici un madrigal qu'elle a commis à l'âge d'à peine 25 ans. Alors bien sûr, Barbara Strozzi était héritière de toute une tradition madrigalesque, mais elle a su la porter tout de même à des sommets d'expressivité absolument incroyables.
Oh.
Je suis amoureux, mais candide et modeste. L'autre, ta main pudique, moi je te veux chaste. Tout un programme, pas très érotique, vous allez me dire. Quoique, érotique suprêmement sans doute, c'était la musique de Barbara Strozzi qu'on entendait ici, et la patte de Leonardo Garcia Larcón avec les membres de sa Cappella Mediterranea. C'est un disque qui, comme toutes les œuvres de Garcia Larcón, bien sûr, est paru sur le label des éditions Ambroné. On va terminer cette émission avec un concerto important de Mozart, même si ce n'est pas le plus pratiqué. Le 19e est lumineux, puissant, volubile, solaire, jupitérien même par certains aspects, surtout grâce à l'importance de l'orchestre. Très souvent, l'orchestre chez Mozart dans les concertos figure comme une extension du piano. Là, on a véritablement un dialogue qui s'instaure entre les deux, entre deux forces, entre deux masses peut-être, qui discutent avec grand, grand bonheur. En particulier, dans ce final irrésistible, on va entendre au sein de son intégrale qui a fait date Murray Peraya et les membres de l'English Chamber Orchestra. Thank you. L'Allegro assai qui referme le 19e concerto pour piano de Mozart. C'était Murray Peraia avec les cadences de Mozart. Je le signale au passage, puisque souvent Murray Peraia rajoute les siennes. Il a parfaitement le droit. Il faut le faire si on a envie de le faire. Ils le faisaient tous à l'époque. Alors on a bien le droit de le faire aujourd'hui. L'English Chamber Orchestra. N'oubliez pas d'écouter France Musique ce soir. Un grand concert vous attend. Ce seront les Boréades de Jean-Philippe Rameau qui étaient données à Aix-en-Provence au mois de juillet, le 18 pour être précis, au Grand Théâtre et dans le Festival d'Aix-en-Provence. Marc Minkowski à la baguette et les musiciens de Louvre, ça ne se manque surtout pas. Et ça vous sera présenté à partir de 20h, tout à l'heure donc, par Stéphane Grant. Merci à Raphaël Dor, Jean-Charles Dieval, Thibaut Nassimben et Victor Buton. Très bonne fin d'après-midi à tous.